Coq chante et les jours paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Les arbres, en captant l'eau qu'il y a dans le sol, donc l'eau arrive dans les feuilles et en fait ensuite, à travers la respiration, parce qu'un arbre respire, hein, il relâche en fait de l'eau dans l'atmosphère et donc crée en fait des microclimats locaux et on a le cercle vicieux inverse lorsqu'on a de la déforestation. En coupant les arbres, on relâche moins d'eau dans l'atmosphère qui tombe moins localement et ça s'assèche et donc du coup un climat qui est moins propice à l'installation des arbres.
La forêt joue un rôle important dans la régulation du climat. Malheureusement, la main de l'homme a fragilisé ces écosystèmes essentiels. Pour les forêts d'Afrique centrale, une étude internationale coordonnée par les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement IRD et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD révèle la composition des forêts tropicales d'Afrique centrale et leur vulnérabilité à l'augmentation des pressions climatiques et humaines attendues dans les prochaines décennies. Cette étude utilise un très grand ensemble de données de 6 millions d'arbres dans plus de 180 000 parcelles de terrain sur 5 pays. Les cartes générées pourraient être utilisées pour guider des actions ciblées au-delà des frontières nationales. Cela sonne comme une alerte adressée aux décideurs de différents pays concernés. Le premier qui nous explique cette affaire, c'est Maxime Rigeau-Méchin, écologue à l'IRD. Avec les scientifiques, il faut faire attention au contenu des mots. Une première préoccupation, qu'est-ce qu'une forêt et comment ça fonctionne? Pour nous tous, la réponse semble évidente. On va voir que c'est un peu plus compliqué.
Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque espèce est différente. Au même titre qu'on est tous différents entre nous au sein d'une même espèce, eh bien, entre espèces, on est très différents. Au sein des mammifères, on est très différents entre un chat, un chien, etc., entre un homme, un singe, etc. Et donc, du coup, les arbres, c'est pareil. Ils appartiennent à une très grande famille, très grand clade qui est des arbres et ils sont très différents. Ils partagent des caractéristiques très différentes et ils sont adaptés à différentes conditions, etc. Ils ont des caractéristiques qui leur sont propres et qui leur permettent de pousser dans certaines conditions et pas d'autres et d'être plus compétitifs dans certaines conditions que d'autres et donc de devenir plus dominants que d'autres espèces à certains endroits mais plus dominés à d'autres endroits. Donc c'est ce qui fait que le sol par sa capacité en rétention en eau, en nutriments, etc., va avoir un aspect un peu de filtre sur les espèces, va conditionner quelles espèces vont être les plus compétitives, les plus efficaces dans un type de sol donné. Et quand le sol varie, les espèces qui sont adaptées à un type de sol vont aussi changer au fur et à mesure que le sol peut changer. Et le climat, c'est pareil. Certaines espèces vont être plus adaptées à la sécheresse, et d'autres, plus justement, ne vont surtout pas supporter un manque d'eau, etc. Si une même espèce arrive et domine, un pathogène va arriver et va avoir tendance à tuer l'ensemble des arbres. C'est un peu ce qu'on observe avec les platanes en France, avec les chenilles qui ont mangé des platanes en France, ou etc. Quand une espèce se met à dominer, un pathogène peut très vite se propager. Enfin, c'est ce qu'on observe aussi avec le Covid actuellement et l'homme. Et donc favorise en fait l'installation d'autres espèces qui vont être résistantes à ce pathogène.
Je vous ai appelé parce que vous avez mené une étude entre l'IRD et le CIRAD au sujet des forêts tropicales d'Afrique centrale. Cette étude, moi, j'ai retenu deux grands aspects. Il y a d'abord la composition de ces forêts.
Oui, exactement. Et jusqu'ici, largement, on savait très peu de choses pour l'Afrique centrale. C'est souvent représenté comme un grand tapis vert uniforme. Et on disait, ça, c'est la forêt d'Ancenis. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Alors dans ce travail-là, on a utilisé un énorme jeu de données qui utilise des données produites par des sociétés forestières qui ont fait des inventaires d'aménagement. Et donc il y a des centaines et des centaines d'équipes qui ont travaillé pendant des années et des années pour produire ce jeu de données-là. Donc c'est un jeu de données qui est vraiment très très grand et qui est distribué sur 5 pays, le Cameroun, le Gabon, l'Afrique centrale, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Et alors tout ça en collaboration avec différents instituts et des collègues africains, donc des différents pays sur lesquels on a travaillé, et on a pu la modéliser, c'est-à-dire la prédire dans les endroits où on n'avait pas de données et établir une grande carte de la composition floristique des forêts d'Afrique centrale.
Vous tenez à caractériser ça pour savoir quelles sont les essences, qu'est-ce qui font que ce sont ces essences-là ?
Les plantes ont ce qu'on appelle des traits fonctionnels. Donc des traits fonctionnels, c'est des caractéristiques qui leur sont propres et qui leur confèrent une capacité à pousser plus vite, à mieux résister à la sécheresse, etc., comme j'en parlais tout à l'heure. Dans cette étude, on a considéré trois grandes caractéristiques qui sont importantes pour le fonctionnement des écosystèmes forestiers. La première, c'est la densité de bois. Donc il y a des espèces qui vont avoir un bois très lourd. Et en général, quand on a un bois très lourd, ben, on pousse moins rapidement. Donc on est moins capable de répondre rapidement aux perturbations, par exemple. Alors que quand on a un bois léger, on peut croître très rapidement et répondre aux perturbations. Il y a un deuxième trait qui est, par exemple, il y a des forêts qui sont ce qu'on appelle décidues, où la majorité des arbres perdent leurs feuilles pendant la saison sèche. Donc c'est des espèces qui vont plus résister au stress hydrique que des espèces qui gardent leurs feuilles en permanence. Et le troisième trait qu'on a considéré, c'est la taille maximale de l'espèce. Donc ça, c'est sa capacité à dominer les autres au sein de la forêt et notamment aussi à stocker du carbone. Et donc ces trois grands types de caractéristiques, on ne retrouve pas les mêmes types de caractéristiques dans les différents endroits en forêt en Afrique centrale. Et donc, ces combinaisons de traits vont conférer une capacité de réponse différente au changement climatique et aux perturbations humaines. Ce qu'on a cherché justement à montrer en essayant de combiner ces résultats-là avec des scénarios climatiques et anthropiques.
Rappelons que le but de cette vaste étude, c'est de mesurer la vulnérabilité des forêts tropicales d'Afrique centrale. Et quand les chercheurs parlent de vulnérabilité, il s'agit de déterminer comment la forêt va résister à la dégradation du climat, comment elle va pouvoir supporter l'exploitation humaine.
Exactement. Alors la vulnérabilité, c'est en fait les risques que la forêt peut encourir est susceptible d'encourir face à des pressions qu'on observe, des pressions climatiques ou des pressions anthropiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que prédire l'effet des changements globaux, alors autant l'effet anthropique, on le sait très bien, c'est plutôt de la déforestation, de la dégradation, mais l'effet climatique est très dur à comprendre sur les forêts, tout simplement parce qu'on va vivre un tel changement de température, etc., en Afrique centrale. Donc par exemple, avec des scénarios plutôt optimistes, on est sur une augmentation en moyenne de 3 degrés de la température moyenne d'ici 2085, ce qui est énorme. Et en fait, ce qui fait que les conditions actuelles dans lesquelles vivent les espèces d'arbres vont quasiment disparaître d'Afrique centrale. Et on va arriver sur des nouveaux climats. Et donc, c'est des choses qu'on ne connaît pas ailleurs.
Ah ouais.
Par exemple, au Cameroun, les forêts seront principalement impactées par la démographie humaine, avec une explosion de la démographie au Cameroun, comme on l'observe aussi en République démocratique du Congo. Et donc là, ici, les forêts seront beaucoup plus sensibles aux pressions anthropiques qu'aux pressions climatiques. Par contre, dans d'autres endroits, comme dans certaines zones du Gabon ou en RDC, on a une conjonction aussi avec les changements climatiques qui semblent et qui vont probablement exercer une forte pression sur les communautés d'arbres à ces endroits-là. En République démocratique du Congo, on a une explosion démographique qui est énorme. Par exemple, un scénario des Nations Unies prédit que la population humaine de ce pays sera multipliée par 7 entre 2000 et 2085.
Par 7.
C'est vraiment énorme. Et donc, c'est des endroits où déjà les populations sont réparties de manière très large dans tout le pays. Il faut savoir que la RDC, ça contient plus de la moitié des forêts tropicales d'Afrique centrale. Mais qu'il y a des enjeux énormes de conservation là-bas parce qu'il y a une dégradation, une déforestation actuelle qui est déjà très forte et qui va s'accentuer énormément avec la pression démographique. Et en plus de ça, viennent s'ajouter des pressions climatiques qui sont aussi très importantes sur la RDC. Il faut absolument une réponse politique à la gestion de ces forêts-là pour ne pas les voir disparaître dans un avenir proche.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Il faut savoir que ces forêts d'Afrique centrale constituent ce que les scientifiques appellent le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Toutefois, les dégâts sont trop avancés en Amazonie, alors qu'en Afrique centrale, on peut encore sauver les meubles. Aujourd'hui, le secteur de l'exploitation forestière est le deuxième employeur après l'armée. Ajoutons que c'est également important pour les populations locales. C'est ce que nous explique Sylvie Gourlet-Fleury, qui est écologue forestière à l'unité forêt et société de l'IRD.
Si je retrace un peu mon parcours, à l'origine, j'ai une formation forestière. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait exploiter les forêts de manière durable, puisque moi j'ai passé mon enfance sous les tropiques. Donc ces forêts-là m'intéressaient tout particulièrement. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte que pour arriver à comprendre comment on pouvait exploiter les forêts, eh bien, il fallait déjà comprendre comment elles fonctionnent.
Ah, c'est-à-dire qu'au début, vous faisiez partie de ceux qui coupaient la forêt, puis vous vous êtes dit, on peut faire autrement.
En fait, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut couper la forêt, mais on ne peut pas la couper n'importe comment.
Oui.
Et surtout, on ne peut pas couper n'importe quoi, et surtout en n'importe quelle quantité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de couper trop. Et si on coupe, il faut être certain qu'à côté, par ailleurs, autour, on protège.
D'accord. Alors, moi, j'ai une question de profane qui va peut-être vous étonner. Qu'est-ce que vous appelez une forêt ?
Alors, c'est un sujet qui est très intéressant et qui est assez compliqué.
Quand un chercheur me dit ça, je me méfie.
Alors on va dire que beaucoup parmi les gens qui travaillent sur les forêts utilisent comme référence une définition unique qui est celle de la FAO. Alors cette définition, elle utilise quatre variables. Hein. On s'intéresse au pourcentage du couvert forestier sur une surface donnée. On s'intéresse à la surface minimum qui est couverte par les arbres. On s'intéresse à la largeur minimum de la surface concernée et on s'intéresse à la hauteur minimale que doivent avoir les végétaux sur cette surface. On quantifie, on essaie de quantifier.
En réalité, il y a plusieurs définitions de la forêt. Le tout dépend de l'usage que l'on veut en faire. Ce qui pose problème, parce que chaque pays ou groupe de pays adopte une définition donnée. Harmoniser tout cela n'est pas simple.
Ce sont des grosses discussions qui sont abordées à l'heure actuelle, puisqu'on réfléchit beaucoup à la déforestation.
Oui.
Eh bien, toute la question est, qu'est-ce qu'on a appelé une forêt et qu'est-ce qui a été déforesté ? Donc, ce ne sont pas des questions simples.
Ah, je vois que ma toute petite question peut vous mener loin. Alors, moi, je vous ai appelé parce que vous avez participé à une étude sur les forêts tropicales d'Afrique centrale.
Oui.
Alors, pourquoi cette zone d'Afrique centrale d'abord ?
Cette région, beaucoup de préoccupations qui sont liées au fait qu'on y exploite les forêts, qu'on exploite du bois dedans. Et c'est une région qui, du point de vue des caractéristiques de ces forêts, était moins connue, moins étudiée que les forêts que l'on trouve en Amérique latine, donc le bassin amazonien en particulier qui a été beaucoup étudié, et les forêts d'Asie du Sud-Est qui ont également été beaucoup étudiées.
Ce qui veut dire que dans un premier temps, vous avez travaillé sur la composition de cette forêt,
oui.
Et ce que vous appelez aussi la composition fonctionnelle.
Voilà, alors je vais essayer d'expliquer ça de manière aussi claire que possible. Donc la composition floristique, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les différentes espèces. Il y a 4000 espèces d'arbres qui sont présentes dans ces forêts. Ces espèces d'arbres qui sont différentes, on parle souvent de traits. Quand on parle de composition fonctionnelle, on se réfère à des traits fonctionnels qui sont certaines caractéristiques de ces espèces, comme par exemple la densité de leur bois ou la taille maximale qu'elles peuvent atteindre au niveau de leur tronc, ou bien le fait par exemple que elles peuvent perdre régulièrement leurs feuilles, ce qu'on appelle la déciduité. Voilà par exemple trois caractéristiques fonctionnelles qui sont extrêmement intéressantes parce que des espèces très différentes eh bien, peuvent avoir les mêmes fonctions.
Ben, il est évident que l'ébène et le capoquier ne peuvent pas donner le même bois.
Voilà, c'est exactement ça. Et il se trouve que ça dit beaucoup sur la façon dont ces espèces se comportent.
Alors, je vois forêt d'Afrique centrale particulièrement vulnérable aux changements globaux, mais cette vulnérabilité des forêts a un impact sur les populations.
Elle aura forcément un impact sur les populations, mais ce qui est certain aussi, c'est que les populations aujourd'hui et dans les années qui viennent ont un impact sur les forêts. Le réseau routier qui est en train de grandir et de s'étendre, les premiers impacts, ils sont vraiment exercés par les populations humaines.
Alors si j'ai bien compris, il y a plusieurs combinaisons de plusieurs facteurs, c'est-à-dire que la population va augmenter, c'est-à-dire que les besoins vont augmenter.
Oui.
Et les changements climatiques sont là. Moi, je suis d'Afrique de l'Ouest et j'ai vu au Sahel et en savane ce que ça peut faire les changements climatiques.
Oui.
Et ces forêts sont vulnérables du fait de ces deux pressions-là, de pression de l'homme et pression du changement climatique.
C'est exactement ça.
Donc on a ces trois éléments-là qui forment une tambouille un peu dangereuse, quoi.
Alors dangereuse, oui, mais elles nous permettent de repérer les endroits qui sont les plus dangereux et elles nous permettent de faire des propositions ou d'essayer d'orienter les activités, les actions vers ces zones qui sont particulièrement dangereuses.
Ah oui, donc vous dites, là il faut faire attention, là il faut faire ceci, là on peut avoir la main légère.
C'est exactement ça, ça nous permet de repérer les zones qui vont être extrêmement fragiles et de dire, eh bien là, il faudrait faire un effort pour exploiter moins, pour pourquoi pas planter, créer ce que nous appelons nous des corridors, c'est-à-dire essayer d'établir des liaisons entre deux zones moins touchées, séparées par une zone qui le sera plus, c'est-à-dire des zones où on peut maintenir la circulation des animaux, des graines de certaines espèces. Tout le travail que nous avons fait nous permet vraiment de mettre le doigt dans les zones précises où il faudrait absolument enclencher des actions de protection.
Je vous remercie parce que là, vous, au moins, vous finissez sur une note optimiste. Tout n'est pas perdu.
Tout n'est certainement pas perdu. L'Afrique centrale a la chance énorme de tenir encore beaucoup de forêts. La question qui va se poser maintenant, c'est comment sensibiliser les populations à cette question-là? Quelles actions urgentes préconiser, mais en collaboration, en discussion, suite à des échanges avec toutes les personnes qui sont concernées sur le terrain? On ne peut pas terminer avec des visions pessimistes, il faut identifier les risques. Et puis terminer avec des visions complètement optimistes en se préoccupant de la manière de diffuser l'information à un maximum de personnes vivant dans les zones qui sont concernées.
Alors diffuser de l'information, nous allons y contribuer.
Et ça, nous en sommes vraiment très heureux.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Nous étions en compagnie des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement IRD et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD qui nous parlaient de la vulnérabilité des forêts d'Afrique centrale à l'augmentation des pressions climatiques et humaines. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
Édition spéciale sur RFI.